quand on prononce un nom comme Laguiole n'importe où dans le monde, on a tout de suite des images très précises qui nous viennent en tête.
Ouais, le fameux couteau.
Exactement, le couteau effilé sur les grandes tables. Et puis ce fromage de caractère, à la croûte épaisse qui fond si bien. Mais bah, on s'arrête rarement sur le fait que derrière cette renommée mondiale se cache une vraie petite bourgade.
Une bourgade perchée sur un plateau volcanique super rugueux, oui.
C'est ça. C'est un lieu qui a été forgé par une histoire locale absolument fascinante. On parle de contrastes géographiques saisissants, d'exodes ruraux massifs et de renaissances bah, vraiment inattendues. Donc notre plongée d'aujourd'hui s'annonce particulièrement riche. Je suis ravi de lancer cette exploration.
Et je suis ravi d'y participer. L'histoire d'un tel lieu, elle n'est jamais linéaire en fait. C'est le résultat d'une friction constante. Une friction entre une géographie, disons, très intraitable et une ingéniosité humaine qui a été poussée dans ses retranchements. Pour vraiment comprendre comment cette petite cité a imposé son nom partout, il faut remonter le temps.
Et pour accomplir ce voyage, on a une source unique aujourd'hui. Mais quelle source ? C'est un document exceptionnel. Un article exhaustif, un grand format, qui s'intitule « Laguiole, capitale de l'Aubrac ».
C'est un dossier monumental, oui.
Totalement. Il a été publié dans le bulletin numéro 44 du Cartoclube Aveyronnais, paru en 2010. Et il faut vraiment saluer les auteurs de cette mine d'informations. C'est l'œuvre de Evelyne Conquête et Robert Kaila, qui ont travaillé en étroite collaboration avec Alain Bouza et Gilbert Régour.
C'est un travail d'archives inestimable. Ça rassemble des fragments d'histoire qui se seraient juste évaporés sinon.
Ouais, et une mention très spéciale s'impose pour Guy Mazard. La source le cite explicitement comme le rédacteur en chef et surtout le concepteur de la mise en plage. Parce que c'est cette mise en plage qui donne toute sa dimension au récit. Le fil rouge visuel de cette exploration, ce sont des centaines de cartes postales.
Des cartes postales anciennes et modernes, oui.
Voilà. Et c'est pas juste des illustrations. Ce sont des capsules temporelles.
L'utilisation de la carte postale comme matériau historique, c'est brillant. Ces images, elles montrent pas juste des bâtiments, elles capturent la densité des foules, l'effervescence d'une économie disparue. C'est l'histoire sociologique d'un territoire gravé sur du papier glacé.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment tout ça a commencé, géographiquement parlant ?
Alors déjà, faut poser une règle de base. Pour quiconque s'intéresse à la région, Laguiole, ça se prononce impérativement Laguiole.
Très important de le rappeler, oui.
Absolument. Et historiquement, au XIIe et XIIIe siècle, ce rassemblement humain s'appelait la Glaizola. C'est du latin qui veut dire tout simplement « petite église ».
On est loin de la capitale internationale de la coutellerie à ce moment-là. Mais ce qui va sceller son destin, c'est son emplacement. Le village est perché à 1042 mètres d'altitude, sur un piton basaltique, et il est à un carrefour stratégique.
Exactement. Il est à la jonction de trois mondes.
Au nord et au nord-est, on a les immenses pâturages de l'Aubrac, ce qu'ils appellent la montagne. À l'est, des forêts domaniales, et au sud et à l'ouest, ça redescend vers la Viadène, une zone plus cultivée.
Ce positionnement, c'est la clé de voûte. Être au contact entre l'élevage intensif, le bois et l'agriculture, ça fait de Laguiole un point de passage obligé. La géographie a dicté l'économie.
Et cette rudesse géographique, on la voit sur les cartes postales. Il y a la carte numéro 45, titrée « Laguiole panorama vue de la route d'Espalion ». On y voit le village blotti sous son église pour se protéger des vents. Une église dédiée à Saint Matthieu, construite après 1497.
Et qui servait carrément d'ancien rempart au fort de la ville.
C'est fou de se dire ça.
Ça illustre la double contrainte, se protéger du climat extrême, mais aussi des pillages. D'où l'omniprésence du basalte, cette roche volcanique noire, typique de l'Aubrac.
Ce basalte, ça donne une atmosphère très lourde. Je pense à la carte numéro 8431, le square du souvenir. Le monument aux morts est en basalte, avec des lignes super sobres. Et dans l'urbanisme, c'est pareil. Sur une carte de 1913 qui montre la rue du Faubourg, il y a cette rue au nom génial, la rue Bombe-Cul.
Un nom qui annonce la couleur sur la pente.
Complètement. Mais le plus frappant, c'est les murs de soutènement construits en orgue basaltique.
Oui, les orgues basaltiques, ce sont d'immenses colonnes de roches formées par le refroidissement brutal de la lave. Les habitants ont recyclé ces piliers volcaniques pour tenir leur route. C'est monumental.
C'est de l'optimisation extrême. Et cet isolement, ça s'est transformé en puissance économique avec le temps. Ce carrefour a créé une économie rurale énorme, autour des foires.
Des foires gigantesques. On ne parle pas de petits marchés de village, il s'agissait de rassemblements massifs. On y échangeait des bovins de la race d'Aubrac, des moutons, des poulains. En 1847, il y avait 7 grandes foires annuelles. Et 50 ans plus tard, il a fallu en rajouter 5 de plus.
Les archives visuelles sont folles quand on regarde la carte 977, place du Champ de Foire, qui a voyagé en 1912, ou la carte 8, marché aux moutons, ou encore 17, un jour de foire, l'image est noire de monde.
C'est une marée humaine.
Des charrettes, des éleveurs en blouse, des maquignons. On imagine le brouhaha, les sabots sur la pierre.
Et il faut imaginer la pression sociale. Les revenus de toute une année se jouaient en quelques heures de négociation.
Cette pression, elle explosait d'une manière assez, disons, théâtrale. Le dossier raconte que les jours de foire, tout se passait sur la place Prat, pleine d'auberges. Les affaires commençaient après la messe, puis les hommes s'attablaient. Et là-bas, le vin ne se servait pas au verre, il se servait au litre.
Forcément, ça n'aidait pas à calmer les esprits.
Pas du tout. Quand les conflits éclataient, après quelques litres, ça se réglait par ce qu'ils appelaient la justice de la gueule, ou drélière. En gros, une immense bagarre générale à grands coups de bâton en bois d'alisier.
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça cache une réalité plus dure. Ces foires intenses masquaient un surpeuplement rural sévère sur le plateau. Les terres ne suffisaient plus et avec le début de la mécanisation, il y avait moins besoin de bras. C'est ce qui a déclenché la phase suivante, l'exode.
Montagnol. De ruraux à Véronais, ils sont devenus charbonniers dans la capitale. Puis ils ont combiné le charbon et le vin.
La naissance des bougnats.
Exactement. Et ensuite, limonadiers, puis restaurateurs, jusqu'à dominer la scène parisienne.
Ils ont transféré une éthique de travail hallucinante, souvent forgée dans les burons, ces petits abris en pierre isolés sur les pâturages.
Où ils passaient des mois à faire du fromage dans un dénuement total. L'exemple ultime de cette ascension, c'est Marcelin Cazé. Son histoire est dingue. Né dans un buron en 1888. Il monte à Paris en 1904 comme livreur de bain chaud.
Le bas de l'échelle, vraiment.
Et en 1920, ce gars rachète la brasserie Lippe, à Saint-Germain-des-Prés. Le repère de l'élite politique et littéraire.
Le grand écart culturel est incroyable. Mais ce qui est beau, c'est que le lien avec le pays n'a jamais été rompu. Il y a eu la création de la Laguiolaise en 1910, une amicale d'expatriés.
Fondée par Florin Quépolade, oui.
Et cette amicale a financé le développement du village. C'est eux qui ont payé l'imposante statue en bronze du taureau d'Aubrac, sculptée par Guillot et érigée en 1947.
D'ailleurs, le lien charnel avec le pays, ça passait aussi par la santé. Il y a une carte postale géniale, la numéro 60, « Parisien buvant le petit lait ». Ces restaurateurs parisiens, complètement épuisés par la capitale, revenaient l'été pour faire des cures de gaspe.
Le petit lait des burons réputé pour remettre sur pied.
On en reparlera à la fin de cette gaspe, parce que c'est une sacrée leçon. Mais parlons d'abord gastronomie, puisque c'est le pont entre ces deux mondes. Le fromage de la gueule.
Un pilier absolu. L'histoire laitière remonte aux moines du XIIe siècle. Ils ont structuré la production via les domories pour nourrir les pèlerins l'hiver.
On voit ça sur les cartes, 418 fabrications du fromage de la gueule et 275 le fromage de la gueule. Des hommes qui pétrissent la tome à la main et ce patrimoine a failli disparaître dans les années 60. Heureusement, André Valadier et de jeunes agriculteurs ont fondé la coopérative Jeune Montagne en 1960.
Ce qui a sauvé le produit est décroché l'AOC, en interdisant notamment l'ensilage de maïs pour que le lait garde le goût de la flore de l'Aubrac.
Et alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oubliez tout ce qu'on croit savoir sur la Ligot.
Ah oui, la grande révélation du dossier.
La carte postale montre un aligot sur la montagne, des hommes autour d'une marmite. On pense tous purée de pommes de terre filante, sauf qu'au XIIe siècle, le mot latin aligot voulait juste dire « quelque chose à manger pour les pèlerins ». Et à l'époque, il n'y avait absolument aucune pomme de terre dans l'aligot.
Logique, la pomme de terre n'existait pas encore en Europe avant Christophe Colomb.
C'est fou de se dire ça. C'était juste de la tomme fraîche pétrie vigoureusement avec des morceaux de pain. Le tubercule est venu remplacer le pain bien plus tard pour des raisons économiques.
L'Aubrac regorge d'autres trésors bruts comme ça.
Oui, la gentiane, illustrée par la carte 243, les arracheurs de gentiane, la fouasse ou encore les pétiouettes, ces tripous primés. Tout ça inspire directement la haute cuisine de Michel Brasse aujourd'hui.
Et cette transformation des rations locales s'applique à l'artisanat aussi. Surtout le couteau qui a porté le nom de la gueule partout.
Au départ, c'était super modeste. Au XVIIIe siècle, le paysan avait un couteau à lame fixe, le capusador.
Le basculement, c'est vers 1880, et c'est directement lié au bougnat parti à Paris.
Exactement. Les Aveyronnais devenus limonadiers avaient de nouveaux besoins urbains. Il fallait ouvrir des bouteilles. C'est comme ça qu'est né le premier lagueul pliant à trois pièces. Lame, poinçon pour le bétail et tire-bouchon.
Un outil de paysan transformé par la ville.
Et un détail fascinant soulevé par les auteurs. Sur ces premiers modèles, la fameuse mouche n'était pas encore une abeille. C'était une fleur. L'âge d'or arrive en 1900 avec une médaille d'or à l'exposition universelle pour des artisans locaux comme Calmel et Page.
Mais le déclin a frappé après la Première Guerre mondiale, qui a décimé la main-d'œuvre. La fabrication a presque disparu du plateau.
Jusqu'à la renaissance miraculeuse de 1985, où des locaux ont rapatrié la production. Et cette capacité à se réinventer, on la voit aussi avec le tourisme. Dès la Belle Époque, le village s'est adapté.
Absolument, les cartes postales le montrent bien.
On voit l'autobus de Neussargues arriver en 1911. Le Grand Hôtel Régis faisait sa pub en 1902, recommandé par le Touring Club de France, avec téléphone et garage pour automobile. Mais la carte numéro 38 est la meilleure, l'établissement de bain, la Carderie.
C'est génial, une ancienne filature transformée en station balnéaire au milieu des pâturages.
Il ne manquait pas d'audace. Ensuite, station de ski en 1946 et aujourd'hui le tourisme vert.
Quand on étudie tout ça, on réalise que ce qu'on pense être des tendances très modernes existe depuis longtemps.
C'est la réflexion parfaite pour clôturer notre exploration. Revenons sur ces cures de gaspe dont on parlait tout à l'heure. Ces limonadiers parisiens du début du XXe siècle, en plein burn-out urbain, qui retournaient en Aubrac pour boire le petit lait des burons.
Plein de vitamines et de ferments lactiques, oui.
Aujourd'hui, on est obsédé par la détox, la quête de bien-être, le retour à la nature, les probiotiques naturels. On croit avoir inventé ça face à la toxicité de nos vies modernes. Mais il est fascinant de voir qu'il y a plus d'un siècle, le plateau de l'Aubrac était déjà une clinique à ciel ouvert pour citadins épuisés.
La quête d'équilibre face à l'urbanité, ça n'a vraiment rien d'une nouveauté.
Ça laisse matière à réfléchir sur notre propre besoin de retour aux sources. C'était une plongée captivante. Merci d'avoir décortiqué ces archives incroyables avec nous. À très vite pour une nouvelle exploration de documents tout aussi passionnants.